repérage du bibliothécaire.
Bonjour Marc, comment ça va cette journée glaciale?
Ah ouais, puis ça va être encore plus grave dans un ou deux jours, je crois.
Ouais, écoute, la température baisse, mais par contre, nos livres, eux, ils réchauffent les cœurs de nos auditeurs et nos lecteurs, et nos lectrices, et nos auditrices, parce que maintenant, il faut utiliser la langue inclusive.
Ah oui, c'est vrai,
Alors voilà, donc, en parlant des langues, on va aussi parler des livres, bien sûr. Et pour commencer, on va introduire les livres qui sont lus, comme d'habitude, ceux qui ont été lus. Et bien entendu, il y a un peu de tout, tous les genres. Et il y a des livres qui sont passionnants. Il y a quelques prix littéraires. Et tu sais qu'on essaie quand même de fournir les prix littéraires les plus tôt possible. Donc il y a les prix Médicis étrangers, qui a été donné à un écrivain italien qui s'appelle Paolo Cognetti. Et pour un livre qui s'appelle « Les huit montagnes ». C'est un livre d'une grande beauté, un peu méditatif. Ça se déroule justement dans les montagnes du nord de l'Italie. Et puis, il est disponible à le numéro 35502. Et puis, il y a les prix Femina. Les prix Femina qui est disponible aussi chez nous. Et qui a été octroyé à Philippe Janada pour un livre qui s'appelle « La Serpe ». Ça, c'est un gros livre, c'est un gros pavé. Et La Serpe, c'est un livre qui, je ne sais pas si tu connais les salaires de la peur.
Oui,
c'est
oui,
fameux. Donc,
fait,
voilà, donc l'auteur, c'est et étant un personnage qui, à l'époque, dans la fin dans les années 40, pendant l'occupation allemande, a été controversé parce qu'il était accusé d'avoir tué... Enfin, son père, sa tante, un sacré carnage avec une serpe, justement. Et donc, Janada, il fait toute une recherche assez approfondie en parlant aussi de sa vie privée, donc c'est un mélange. Et ça donne un texte qui est passionnant, parce que jusqu'à la dernière partie, la dernière minute, on reste dans est-ce qu'il était coupable, est-ce qu'il n'était pas coupable. Mais bref, on va... laissez nos auditeurs, nos auditrices et prendre connaissance de ça. Et ça sera avec le numéro 35721. Mais avant de conclure, parce qu'évidemment, il y a aussi des différents genres littéraires. On a du théâtre. Eh bien, maintenant, on a de plus en plus, en tout cas ces derniers mois, du bon théâtre par polyphonie. Et il y a même une petite section érotique aussi pour les amateurs. Et... matrice. Et donc, il y a aussi deux livres dont je vais parler qui viennent d'une région qui apparemment n'est pas tellement plus à la mode maintenant, qu'on se préoccupe plus de la Corée du Nord, etc., qui est le Moyen-Orient. Et ces deux livres qui se déroulent dans des périodes différentes, mais qui, tous les deux, sont extrêmement bien écrits et en plus intéressants de par le contexte et de par l'ambiance qu'il donne. Alors, il y en a un qui s'appelle, et le titre déjà vous met en situation, Frankenstein à Bagdad.
Oh.
Donc là, ça te donne un petit peu la couleur, si j'ose dire. Et donc, Frankenstein à Bagdad, c'est une sorte de... Alors, le livre, ça oscille un petit peu entre... Les livres d'horreur, les polars, et l'aventure, etc. Et c'est un livre qui se déroule justement dans ce Bagdad qui est sous occupation américaine en 2005. Et là, évidemment, tu vois l'ambiance. C'est pas exactement la ville de l'affaire du tourisme. Il y a des bombes, il y a des factions qui s'affrontent, etc. Et les groupes, et aussi bien du point de vue religieux qu'ethnique, qui s'affrontent. Et tu vas boire un café et on te sert une bombe, etc. Et puis, dans tout ce monde extrêmement violent et cruel, il y a un personnage qui surgit, qui a été construit avec des morceaux des humains des différentes ethnies, races et religions, et qu'on appelle Trucmuche, mais qui est un monstre à la Frankenstein, et qui décide de faire une sorte de justice, de sa propre justice, mais évidemment ça devient extrêmement cruel, et donc ça crée justement les personnages, il dit qu'il n'y a pas d'innocent pur, ni d'assassin complètement abject, mais évidemment c'est un personnage qui est truculent et qui est violent, et ça permet, c'est une manière un peu détournée de donner l'ambiance qui règne à Bagdad dans toute cette période-là. Donc le livre s'appelle Frankenstein à Bagdad, et il a été écrit par un écrivain justement irakien qui s'appelle Ahmed Saadawi. Ça nous change un peu des polars plus classiques. Et puis l'autre livre, il se déroule à peu près dans la même région, enfin ça va un peu plus loin, mais ça se déroule dans une plus longue période, qui commence en 1914. C'est aussi un livre, parfois, c'est vrai que s'il faut parler, évidemment quand vous regarderez les polars, il y a bien entendu des grands classiques, des livres très attendus, comme je vais mentionner très brièvement, mais il y a aussi parfois, c'est bien de donner d'ouvrir des pistes pour d'autres livres qu'on ne regarderait pas forcément. Et donc celui-là, il s'appelle Shlomo le Kurde, et c'est un livre qui est spécial par plusieurs raisons. Il est spécial parce que Shlomo le Kurde, c'est un livre qui a été écrit en arabe. C'est un livre qui a été écrit en arabe par un Israélien. Ça a été écrit en arabe par un Israélien qui est un juif kurde. Donc déjà, c'est assez complexe. Et le livre, justement, il parle. Et c'est un livre qui n'est pas strictement autobiographique, mais où il y a des éléments. Et il s'appelle Shlomo le Kurde, dont l'auteur s'appelle Samir Nakach. Shlomo le Kurde, il raconte l'histoire d'un homme, d'une famille, d'un homme qui était justement un Kurde juif iranien qui était commerçant à Bagdad, qui a vécu des hauts et des bas. Il y a un côté un peu picaresque, un côté tragique aussi, un côté drôle par certains moments. Qui fait des affaires, qui habite en Iran, qui s'enrichit, qui perd tout ce qu'il avait, qui doit partir en Inde faire des affaires, mais qui est très malin pour les affaires, qui revient, qui s'installe, parce qu'il y a, il y a aussi la guerre, la Première Guerre mondiale, il y a la Deuxième, il y a les Russes, parce que l'Iran, le Nord, c'est la frontière avec les Russes, donc il y a les Russes, et il y a évidemment aussi... Et donc ce village où il habite au début qui est ravagé par les différentes factions, différentes religions, les Turcs, et on voit comment étonnamment dans ces milieux-là, à cette époque-là, il y avait une coexistence amicale et pacifique entre les communautés, entre la communauté musulmane, entre les chrétiens et les juifs, qui étaient surtout dans cette région du Kurdistan. Tout se considérait comme kurde et pas comme une chose et l'autre. Et donc c'est très très beau de ce point de vue-là. Il y a aussi une histoire d'amour avec deux femmes, deux histoires d'amour si tu veux. Mais, et donc c'est un livre qui est très touchant, Shlomo le Kurde, et on peut le trouver avec le numéro 35104. Et du coup, ça nous donne une autre vision du Moyen-Orient, un peu moins traditionnelle, enfin en tout cas de ce qu'on connaît un petit peu moins. Oui, exactement. Donc voilà, ça c'est pour ce livre un peu particulier qui sort un peu de la ligne classique. Mais sinon, bien entendu, si on est amateur de polar, on va trouver ces mois-ci les Dan Brown avec son origine. On va trouver, bien entendu, les Jonas Bo, les derniers qui s'appellent La Soif. Donc si on a soif de polar, on peut le lire. Et puis on va trouver, bien entendu, l'attendu Foltenhauer, le dernier, qui a tué Heidi. Donc comme ça, je vous le donne en première. Heidi a été tué par... Non, ça vous allez le voir, bien entendu, quand vous lirez les livres. Et d'ailleurs, il y aura un entretien avec la lectrice qui a des liens un peu particuliers avec les contextes, et pas directs, mais en tout cas plus global de l'histoire. Et donc, c'est le livre de Marc Foltenhauer qui est le numéro 35709. Voilà pour ce qui a été lu, mais évidemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été lues, donc on ne va pas les mentionner tous, je vais juste te donner des éclaircissements. Exactement. Voilà. Eh bien, comme toujours, on donne un petit avant-goût de ce qui est en prod ou en lecture. que nos auditeurs se préparent pour ce qui viendra. Et à l'occurrence, on va dire que je suis un peu monothématique, mais bientôt on va changer, et je reste au Moyen-Orient pour faire là, un peu les tours de la chose. Et on va parler d'un livre qui est un prod et qui aussi concerne la situation, en particulier en Syrie, mais d'un point de vue qui nous touche en tout cas particulièrement, car il s'agit d'une bibliothèque assez particulière. Ce livre qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Delphine Minuit, et il s'appelle « Les passeurs des livres de Daraya », une bibliothèque secrète en Syrie. Car dans cette ville de Daraya, où il y avait toute cette foule des tous les combats, les différentes factions, l'armée syrienne qui bombardait constamment jour et nuit, et il y a une faction rebelle, bien sûr, qui s'opposait à l'armée syrienne, et un groupe d'habitants, les combattants entre autres, ont construit au sous-sol d'un immeuble une bibliothèque où les gens venaient justement au milieu des bombes, tout ça, emprunter des livres. Et lire tranquillement, c'est cultiver, et ils ont même fait un règlement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'un des points du règlement, c'est interdit de faire du bruit.
Dans les bombardements.
C'est un peu particulier, tu ne peux pas crier dans la bibliothèque parce qu'il faut respecter le silence. Bon, c'est touchant parce que c'est une manière de défier un peu la réalité, si tu veux, avec la culture. On pose des règles qui sont les règles normales dans la normalité, même dans un contexte. Pour le futur, alors oui, tu as bien raison de ne pas utiliser ce mot de futur, Marc, parce que les livres que je propose parmi tous ceux qui sont sur la table ici, en attendant d'être lus et connus, c'est un livre assez particulier qui parle du passé et du futur, qui parle de nous tous. Et en fait, c'est un livre qui parle de notre code génétique. Il s'appelle, en français, « Il était une fois les gènes ». En anglais, c'est une histoire intime du gène. C'est parce que, justement, l'auteur, c'est un auteur qui est d'origine indienne, donc d'Inde, mais qui habite aux États-Unis. C'est un oncologue. Un oncologue qui s'appelle Siddhartha Mukherjee. Ce sera la prononciation. Et qui a été prix Pulitzer déjà. Et précédemment, parce qu'il a écrit un livre, alors pour un livre sur les cancers, justement, qui s'appelle L'empereur de toutes les maladies. Et là, en l'occurrence, il fait l'histoire de la découverte du code génétique des ancêtres, et puis les réflexions de Darwin et compagnie, et voir où se situe l'humain, où se situe l'évolution, sur quoi se base le fait qu'on soit comme on est, et qu'on n'ait pas une oreille sur la tête, sur le nez, ou un œil sur les bras, etc. Donc il y a quand même tout un monde. Et il arrive à parler les combats, les recherches, les folies et du monde génétique d'une manière très, très personnelle, parce qu'en même temps, il combine tous ces processus, cette aventure du gène avec son histoire personnelle, parce que justement, de ses motivations était le fait qu'il vient d'une famille où, de manière héréditaire, ils ont la schizophrénie et d'autres maladies psychiques qui sont en fait des maladies génétiques. Et il y a un gène de la schizophrénie, enfin un ensemble de gènes de la schizophrénie. Et donc, c'est une de ses motivations. Donc, parfois, de manière assez pudique, mais quand même bien pertinente dans le livre, il parle de son histoire personnelle, de sa famille, etc. Mais c'est une recherche, une enquête très approfondie qui va justement du passé jusqu'à, comme tu dis, au futur, parce qu'il parle des dangers et des possibilités. Et qui s'offre à l'être humain, maintenant qu'on a réussi à vraiment pouvoir modifier dans les génomes même de l'embryon tous les codes génétiques avec deux outils entre guillemets biochimiques qui permettent de recombiner, de mettre des morceaux d'ADN, etc., d'éliminer bien sûr certaines maladies, mais les conséquences peuvent être assez effrayantes. Donc tous les films de mutants, etc., tout ça, rien n'est impossible. Et surtout, cette théorie dont on parle beaucoup dans plein de livres maintenant, donc si on parle tellement, c'est qu'il y a quelque chose qui qui est dans l'air. Et c'est l'histoire du transhumanisme, de l'homme augmenté, de ce qu'on va devenir, voilà, est-ce qu'on va avoir des capacités supérieures, est-ce qu'il y a des hommes qui vont devenir supérieurs génétiquement. Bon, il y a tous ces films, Bienvenue à Gattaca, il y a plein de livres comme ça, de science-fiction et autres. Et il se trouve que la science-fiction se rapproche de plus en plus de la réalité. Donc, c'est un livre extrêmement passionnant, bien écrit, agréable à lire, pas lourd dans sa manière, mais en même temps très précis par un scientifique, donc Siddhartha Mukherjee. Alors, il attend là d'être lu par un gentil ou gentille lectrice ou lecteur. Voilà, pour ce qu'il y a.
Merci Benigno.
C'est un plaisir.
Nos sélections.
C'est une bien curieuse langue qu'on entend là, et puis je sais pas, j'arrive pas à identifier d'où vient cette musique. Ça me rappelle des choses, mais je vois pas très bien où on va.
Alors, je vais te donner une piste en direct. Hein, si tu sors maintenant d'ici, du bureau, que tu te mets dans la rue, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu éprouves?
Il fait un peu frais.
Il fait un peu frais, hein?
Ouais, ouais.
Alors imagine que tu remontes encore plus.
Ce serait du nord, je sais pas, nord de l'Europe.
Ouais. Non, c'est pas de Saint-Gall, c'est un peu plus haut.
Ça monte. Bon, Scandinavie.
Ouais. Alors, et tu montes même. Quand tu arrives à Scandinavie, tu demandes où c'est le nord et tu montes.
Laponie.
Exactement. On va parler un petit peu dans cette sélection de la Laponie, qui est une région, comme tu sais, qui se trouve à cheval. Ou à Rennes, à d'autres Rennes, comme tu veux, entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Donc, c'est toute cette région de la Laponie, du pays du Samiland, comme disent plutôt les... Mais tu sais que Lapon, c'est un nom péjoratif. Il a été donné comme beaucoup de noms qui on donne à un peuple premier, etc. Et ce sont des noms péjoratifs qui ont été donnés par les autres.
Oui, ça c'est comme Esquimau alors.
Voilà, exactement, c'est comme Esquimau. Et le vrai nom de Lapon, de ce qu'on appelle Lapon, c'est les Sami. Et leur langue, c'est les Sapmi. Donc, elles s'appellent Sami. Et donc, cette région s'appelle les Samila, et dans une partie de cette région s'appelle les Finnmark, justement. Et donc, c'est là qu'on est. Et les jours où on est maintenant, il ne fait pas très, très clair.
Non, il doit même faire plutôt crépusculaire, un
exactement,
peu tout
d'un. Exactement, hein. On est vraiment dans les moments où le soleil ne se pointe pas. Mais si on va dans 6 mois, on l'aura presque 24 heures. Et donc, dans ce monde crépusculaire, on trouve des auteurs, des livres surtout, parce que, évidemment, comme cette sélection, le but, c'est parfois de ressortir des livres un petit peu oubliés, aussi d'apporter d'autres nouveaux, mais moins connus, et aussi de parcourir un peu la diversité qu'on peut avoir dans une région. Et donc, là, justement, dans cette sélection, on va trouver des policiers, des livres un petit peu plus personnels, des livres plus drôles et des livres carrément horribles. Enfin, dans les contenus, pas dans la manière. La manière, ils sont très bien écrits. Alors, je me lance, si tu veux.
Oui, oui, oui.
Alors, il y a donc un livre d'une écrivaine qui des Finlande, par là-bas, qui s'appelle Kata Kettu, et le livre s'appelle La Sage-Femme. Ce livre se déroule à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qu'on appelle la guerre de Laponie, et qui s'est déroulée entre les Finlandais et les Allemands. Vous savez que les Russes ne sont pas trop loin non plus. Mm-hmm. Et donc là, il y a toute une histoire qu'on écoutera en détail en écoutant les quatrièmes de couverture, mais qui est une histoire entre une Sami, donc justement, pas une Lapone, mais une Sami, et qui a des capacités, des dons, un peu comme on imagine en écoutant la musique qu'on a vue, des dons particuliers, et chamaniques presque, et un officier allemand duquel elle tombe amoureuse. On ne vous dira pas plus. Il s'appelle La Sage-Femme, et le numéro, c'est les 20365.
C'est la guerre de Laponie, tout dernier épisode de la Seconde Guerre mondiale qui oppose les Finlandais aux Allemands. Les mines de nickel du Petsamo sont convoitées par le Troisième Reich qui refuse d'évacuer la région après la signature de l'armistice entre la Finlande et l'URSS. Au bord de l'océan Arctique, les conditions de vie déjà très rudes sont davantage aggravées par la présence allemande. Ici, les alliances sont éphémères, les amis d'hier sont tous potentiellement les ennemis de demain. Dans ce coin reculé du monde, œil tordu, une sage-femme aux étranges pouvoirs tombe amoureuse d'un officier SS. Elle le suit dans le camp de Titovka, loin de se douter de la nature du travail qu'elle va devoir accomplir au nom du Führer. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour assouvir la soif de son cœur? C'est dans le fjord du Mor, un endroit du globe réputé maudit et resté inexploré en raison d'un phénomène magnétique, que l'attente d'œil tordu viendra à son terme. Puisant dans la tradition nordique, Katja Kettu fait cohabiter le beau et le laid, le sublime et le sordide dans un lyrisme singulier, offrant au lecteur un étonnant voyage dans un univers poétique hors norme. Une voix rare de la littérature finlandaise au service d'un roman qui lui a valu les louanges des critiques et du public de son pays.
Voilà pour ce livre, ces livres qui est plutôt à caractère fantastique ou historique. Et puis, on s'allège un petit peu l'esprit avec un livre, enfin, un tout petit peu seulement, avec un livre qui s'appelle Les Tribulations dans Lapin, en Laponie. Et donc, il y a l'histoire de... Oui, il y a un pauvre monsieur qui vient de Roumanie, qui a fui, qui s'est réfugié à Helsinki. Il faut aimer les froids. Et donc, on reste en Finlande. Mais en même temps, il est contrôlé par un terrible bandit russe. Et donc, là, il y a des tas d'histoires un peu rocambolesques. Alors, ce personnage s'appelle Vatanescu, doit s'enfuir. Et donc, là, il y a toute une folie qui s'installe, dont ces personnages, et puis bien entendu, son lapin, seront les protagonistes. Mais on vous laissera les découvrir avec le numéro 20682. Donc, l'auteur s'appelle Thomas Kiro.
C'est pour offrir à son fils Miklos des chaussures de faute à crampons que Vatanescu quitte sa Roumanie natale et part mendier sur les trottoirs de Helsinki. Mais sous l'impitoyable férule d'un trafiquant russe, les affaires tournent vite au vinaigre. Sans papier, pourchassé par la mafia et par la police, notre candide contemporain entame un long périple jusqu'en Laponie, en compagnie d'un lapin dont il a sauvé la vie dans un jardin public. Leur épopée sera jalonnée de rencontres et de personnages hauts en couleur, faites de péripéties plus burlesques les unes que les autres. Les tribulations d'un lapin en Laponie imposent Tuomas Kiro comme le fils spirituel d'Arto Paasilinna. Il partage avec le grand romancier finlandais le sens de l'épopée bucolique et l'art de croquer avec tendresse les loufoqueries de ses contemporains.
Et puis, évidemment, on ne pourrait pas parler du Nord sans parler des polars, du vrai polar bien consistant. Et une auteure suédoise qui s'appelle Åsa, j'imagine, parce qu'il y a un petit point sur le A, Åsa Larsson, et qui est assez connue et dont un livre, son dernier, est en lecture en ce moment même. Alors Åsa Larsson a écrit un livre qui s'appelle Horreur boréale. Donc ça se déroule en hiver, donc comme maintenant, et dans une ville du nord de la Suède, donc de la Laponie suédoise qui s'appelle Kiruna. Et donc là, il y a toute une histoire des sectes, de quelqu'un qui meurt, et d'une recherche de l'assassin, de toute cette secte étrange qui est autour, et de cette nuit qui nous fout quelque chose de plus que le cafard, surtout dans ces contextes-là. Donc c'est l'horreur boréale, et il a le numéro 18001.
Une ferveur religieuse sans précédent s'est emparée de la petite ville minière de Kiruna, en Laponie, depuis que le charismatique Victor Strandgård, le pèlerin du paradis, a survécu à un terrible accident et est revenu d'entre les morts. Pourtant, un matin, il est retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans l'église de la force originelle où il officiait. Sanna, la fragile sœur de Victor, demande à son amie d'enfance, Rebecca Martinsson, avocate fiscaliste à Stockholm, de venir la soutenir et l'aider à échapper aux soupçons de la police. Rebecca, aux prises avec son passé et menacée par les disciples de cette communauté religieuse qu'elle a fui, doit prouver l'innocence de Sanna au nom d'une amitié depuis longtemps brisée.
Ça c'est pour les saints. Et puis, on revient à un auteur qui est plus de chez nous, enfin de plus près de chez nous, mais qui parle de ces là-bas. Et car l'histoire commence au bord du Léman, par ici, et un pays vaudois même, et il y a des histoires qui se passent là, une histoire d'amour, et le personnage, il va, décide de partir en Laponie finlandaise, figure-toi. Probablement à la recherche d'un lapin, qui sait, mais il part là-bas et le livre s'appelle La Vallée Blanche et il y a les vénérables numéros 1223.
L'homme remit une bûche sur la braise. Dans la pénombre, la lueur du foyer tournait au rouge vif, diminuait dans sa profondeur. Elle arrondissait les angles, abaissant fortement le plafond au point qu'il s'en dégageait une impression d'étouffement. La pièce n'était pas grande. La cheminée, large et massive, occupait un angle. Un divan en osier, recouvert de peau de chèvre, posé de travers, en remplissait un autre. Rien sur les murs, sinon un vieux tableau représentant un traîneau tiré par des rennes, et à moitié enseveli par la tempête de neige. La maison était à l'image de cette pièce, étrange, petite, basse, le toit pointu, elle émergeait comme un clocher. Deux sapins bordaient l'entrée composée d'une dalle carrée. La porte donnait sur un corridor étroit et bas. À gauche, La cuisine avec l'âtre, une table, deux chaises, une armoire où la vaisselle était glissée derrière des planches clouées en triangle. À droite, la chambre à coucher. Un lit métallique et une paillasse. Une petite fenêtre, laissant voir l'épaisseur des murs, était à moitié recouverte par un rideau de laine épaisse. Le plancher gondolait. Les lames brutes joignaient mal. Dans le fond, à côté du salon, c'est-à-dire de la pièce à la cheminée, un réduit servant de cabinet de toilette prolongeait le corridor. Autour de la maison, une immense étendue de neige vallonnée, silencieuse. Quelques arbres traçaient une sorte de limite à l'horizon. Où était-on? Personne n'aurait pu le dire, tellement la maison paraissait à la fois extraordinaire et construite en dehors de toute existence normale.
Un classique du Nord, et un classique qui oscille entre l'humour, les histoires un peu... pas vraiment policière, parce que c'est plutôt déjanté plutôt comme histoire, et qui est Artopa Silina. Artopa Silina, qui est assez connu. Et en l'occurrence, ce roman-là, il s'appelle « Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison ». Donc ça donne un peu les tons. Et donc là, c'est sûr, il y a un inspecteur qui va chercher, parce qu'on a entendu qu'à l'ouest de la Laponie, il y a une exploitation qui cultive des herbes, enfin aromatiques. Hein. Et donc, mais bon, toutes les herbes peuvent être aromatiques. Et champignons. Et puis là, on trouve une situation assez horrible dont vous prendrez connaissance en l'écoutant. Et évidemment, avec les tons inimitables d'Artopa Silina et les numéros. Elle est 17982.
L'inspecteur principal, Yalmari Julenketo, la quarantaine sportive, est envoyé par la sécurité nationale finlandaise dans l'ouest de la Laponie pour y enquêter sur un ancien kolkhoz reconverti en une florissante exploitation agricole spécialisée dans la culture biologique d'herbes aromatiques, de sapins de Noël et de champignons, et objet des plus folles rumeurs. L'inspecteur, promu contrôleur du ministère de l'Agriculture pour l'occasion, découvre peu à peu que les immenses champignonnières installées au fond d'une ancienne mine de fer sont en réalité un camp de travail forcé, où la patronne de l'exploitation, une veuve au caractère bien trempé, séquestre de petits et gros malfrats ayant échappé aux griffes de la justice. Séduit par la philosophie de l'entreprise et par la fille de la patronne, Sanna, l'enquêteur s'embarque corps et âme dans cet étrange projet. Un roman drôle et haletant, en forme de réflexion sur l'équité et sur les débordements de la volonté de justice.
On revient plus près de chez nous aussi, dans les auteurs francophones, mais francophones de la poigne. Et il y a un auteur qui s'est spécialisé un peu dans les polars nordiques, enfin dans les polars qui se déroulent dans le nord, parce que lui, il n'est pas nordique, bien entendu, et il s'appelle Olivier Truc. Bon, c'est un nom bizarre, mais c'est un auteur qui est connu et qui écrit très bien. Olivier Truc a écrit un livre dont le titre ne laisse pas de doute sur en tout cas la région, s'appelle « Le dernier Lapon ». Le dernier Lapon se déroule en Laponie... Alors, il y a une Laponie norvégienne. Avant, avec Asa Larsson, on était en Laponie suédoise. Là, on est en Laponie norvégienne, et une ville qui s'appelle Kotokaino. Et donc, c'est la nuit. Donc, c'est en janvier, presque comme maintenant. Il y a une nuit polaire, il n'y a évidemment pas de jour, mais il se trouve qu'en janvier, et autour du 10 janvier, c'est les jours, justement, où... il y a, après quelques temps de nuit absolue, les premiers rayons de soleil qui durent une minute. Donc les gens attendent ça, se mettent autour soit dans un fjord, ou un rocher, ou un bistrot, et puis ils regardent comme le soleil fait tic et disparaît. Et donc, ça, et dans ce contexte-là, évidemment, il y a des meurtres, il y a la perte d'un tambour, il y a un tambour sacré, car justement, et d'ailleurs, en lien aussi à la musique, vient d'écouter, les civilisations du Nord, donc les Samis, mais aussi, bien entendu, les Inuits et autres, ont comme instrument, un des instruments principaux, un tambour, un pot, bien entendu, des reines ou autres, sacré, qui aide aussi au chant, et qui aide aussi à évoquer les esprits, Et là, en l'occurrence, tout tourne autour de ces tambours sacrés, mais aussi autour de toute la problématique politique du pays sami, de la Laponie. Et il y a bien entendu la revendication des indépendantistes samis qui veulent l'indépendance, ou en tout cas plus d'autonomie, parce que c'est très riche en ressources. Il y a aussi des groupes religieux, il y a l'État, il y a des groupes industriels intéressés à l'exploitation géologique. Bon, il y a tout un contexte qui, justement, donne le suspense et qui fait un livre passionnant, qui est non seulement passionnant du point de vue de l'intrigue policière, mais aussi parce qu'il parle des coutumes du peuple sami. Donc, le dernier Lapon avait le numéro 29963.
Depuis 40 jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Dans l'obscurité, les éleveurs de rennes ont perdu un des leurs. Mathis a été tué, ses oreilles tranchées, le marquage traditionnel des bêtes de la région. Non loin de là, un tambour de chaman a été dérobé. Seul Mathis connaissait son histoire. Les lapons se déchirent, malédiction ancestrale ou meurtrier dans la communauté. Demain, entre 11h14 et 11h41, Clément allait redevenir un homme avec une ombre. Ambiance polaire, tradition religieuse et querelle d'éleveurs, le français Olivier Truc réussit un étonnant thriller qui n'a rien d'une promenade exotique, Télérama.
Plus près dans le temps, est un livre un peu plus intime, mais très bien écrit, d'une écrivaine qui s'appelle Maren Uthaug, qui est à moitié norvégienne, à moitié danoise, comme le personnage dont parle le livre. C'est une jeune fille qui, à l'origine, habite dans le nord de la Norvège parce que sa mère est justement Sami, donc Lapone si on parlait mal, mais Sami, elle habite au nord de la Norvège. Sa famille, donc la famille maternelle, a des coutumes où les surnaturels se mêlent au naturel, il y a les forces de la nature, sa grand-mère aussi a certaines communications avec ce monde étrange, l'au-delà, etc. Cette fille est arrachée à son environnement par son père et va vivre au Danemark, mais elle est toujours déchirée entre ces deux cultures et va à un moment donné retourner au nord de la Norvège pour rencontrer sa mère et sa culture. Et donc c'est un livre très 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 fin, très bien écrit, il s'appelle « La petite fille ». Eux et elle, le monde secret de Maren Uthaug, et les livres à le numéro 34770.
Risten passe les 7 premières années de sa vie chez les Samos, peuple autochtone tout au nord de la Norvège. Entre les disputes virulentes de ses parents et l'étrange froideur de sa mère, la petite fille trouve refuge auprès de sa grand-mère. Blottie sur ses genoux, elle écoute avec un mélange d'effroi et de fascination les inlassables mises en garde de celle-ci contre le monde souterrain et ses créatures maléfiques. La vieille femme lui apprend tout ce qu'un bon Sam doit savoir sur ces êtres sournois qui logent dans les entrailles de la nature. Comment démasquer ceux qui se cachent parmi les humains et se protéger contre eux. Aussi, la fillette ne se sépare-t-elle jamais de ses amulettes et prend-elle soin de toujours faire le tour complet des gens pour vérifier qu'une queue ne dépasse pas de leurs vêtements. Un jour, le père de Risten charge la voiture et lui explique qu'ils vont passer l'été chez sa nouvelle amie dans le sud du Danemark. En disant au revoir devant la maison, les yeux brouillés de larmes, Risten est loin de se douter qu'elle ne reverra plus jamais sa grand-mère. Et que plus de 20 ans vont s'écouler avant qu'elle ne retrouve sa mère. Voyage singulier dans l'imaginaire d'une enfant déracinée, habitée par des croyances ancestrales qui se heurtent à la norme d'une société moderne, dominée par le culte des meilleures intentions, la petite fille et le monde secret brossent le portrait tendre et subtil de la communauté Sam. En filigrane d'une intrigue émouvante et drôle, ce beau roman pose aussi la question de notre rapport au monde.
Pour finir, un livre qui, disons, touche très brièvement le monde du nord de la Laponie, mais je le mentionne quand même parce qu'il parle d'un des À part, bien entendu, les rennes, un animal qui est important dans cet environnement du Nord, qui est les chiens. Et les chiens sont importants dans le Nord, un petit peu moins pour les Samis, mais il est quand même important pour tous ces peuples nordiques. Le livre de Nicolas Vanier s'appelle « Otium, chef de meute, l'extraordinaire aventure d'un chien des traîneaux ». Et donc là, il y a toute une histoire d'un chien qui naît en Sibérie et qui est un grand chien des traîneaux et qui parcourt tout le monde glacé, y compris, bien entendu, la Laponie. Voilà, et le numéro, bien entendu, est le 31188.
Otchoum était un jeune chien laïka né sur les berges du lac Baïkal en Sibérie. Il est devenu l'un des meilleurs chiens de traîneau que le Grand Nord ait vu courir sur ses glaces. Chef de meute de l'attelage de Nicolas Vanier, ils ont traversé ensemble toute la Sibérie, puis la Laponie et la péninsule de Kola. En famille, avec une petite fille d'un an et demi, ils ont voyagé toute une année sur la piste de Jack London, dans les montagnes rocheuses du Grand Nord canadien jusqu'en Alaska. Un vrai tour du monde des solitudes glacées. En pleine force de l'âge, à 6 ans, Otchoum, alors prêt à affronter la course de chiens de traîneau la plus difficile du monde, meurt tragiquement. Le livre, longtemps épuisé et enfin réédité, raconte cette merveilleuse aventure, pleine de tendresse, d'amour et de volonté, entre un homme et son chien de tête.